Bonjour Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour.
Jean-Frédéric Poisson, vous êtes venu en Bretagne pour nous présenter votre dernier livre. Vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie consacré à la dignité humaine et à la bioéthique. Vous êtes aussi juriste en droit du travail et vous êtes le président du Parti chrétien démocrate, candidat à la présidentielle en 2016. Vous avez publié plusieurs ouvrages et tout récemment ce dernier livre dont nous allons parler avec vous et dont le titre est « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée ». Vous êtes donc remonté aux faits, vous avez étudié l'islam, vous avez étudié les documents publiés par les représentants de l'islam, notamment la stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, un document publié par l'ISESCO, Organisation islamique pour les sciences, la culture et l'éducation, dont le siège est à Rabat, au Maroc. Et vous avez fait des découvertes dont vous allez nous parler. Mais avant d'en dire plus, je voudrais vous demander, vous êtes un homme politique, vous n'êtes pas un religieux. Alors, pourquoi parler de l'islam ? Quel lien entre politique et islam ?
Il faut parler de l'islam pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque 57 États musulmans se donnent la peine d'élaborer pendant une dizaine d'années un document stratégique de conquête, lorsque c'est la deuxième organisation interétatique du monde, l'Organisation de la coopération islamique, qui publie ce document, lorsque on voit la manière dont l'islam s'implante et progresse en France, pas toujours d'ailleurs selon des modalités qui sont souhaitables par rapport à notre mode de vie, à notre culture, il est tout naturel que lorsqu'on tombe, presque par hasard, ce qui a été mon cas, sur le document dont vous parliez à l'instant, il est naturel de s'y intéresser. Et puis, deuxièmement, on voit bien que l'islam est au cœur d'un grand nombre d'interrogations du peuple français aujourd'hui, mais pas que le peuple français. Beaucoup des conflits dans le monde sont liés à la propagation de l'islam. C'est vrai en Afrique, c'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai en Asie. Les persécutions dont souffrent les chrétiens dans le monde entier sont la plupart du temps le fait d'États musulmans ou de communautés musulmanes. Donc il faut s'y intéresser parce que, comme j'avais eu l'occasion de le dire pendant la campagne présidentielle de 2016-2017, c'est la question centrale de ce quinquennat qui s'est ouvert il y a maintenant un an et demi. Et le nombre très important de reportages, de magazines, d'ouvrages qui sont publiés sur cette question requiert qu'on en parle, bien sûr. Et il faut en parler, il faut mettre cette question dans le débat public.
Mais alors, est-ce que c'est si facile que ça de parler de l'islam ? Ce sujet est finalement un peu tabou, très sensible et controversé. Enfin, il y a ceux qui prônent le dialogue, il y a ceux qui refusent les amalgames, il y a ceux qui parlent d'islamophobie sans qu'on sache exactement ce que c'est. Il y a ceux qui dénoncent la violence et le communautarisme de l'islam et ceux qui parlent de l'islam sans avoir jamais lu le Coran. Et on a l'impression d'être devant un phénomène très complexe et c'est un peu décourageant. Vous, vous êtes un spécialiste du droit et vous avez étudié l'islam et les sociétés islamiques, notamment par rapport à la géopolitique et à l'histoire d'Israël et à la guerre du pétrole. Ça, on pourra y revenir. Mais vous avez effectué aussi des missions sur le terrain en tant que député. Vous êtes donc très lucide. Et sur le plan des libertés et du droit, quel problème le droit islamique soulève-t-il pour le droit en France ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le droit islamique est incompatible avec notre droit et sur quel point ?
Ah, malheureusement sur les points de principe. L'islam est sans doute un système politique avant d'être une religion. Si j'en voulais un seul signe, regardez la manière dont les religions, toutes, je dis toutes en espérant n'en oublier aucune, mais toutes les religions fondent leur origine soit sur la naissance de leur prophète ou de leur dieu, soit sur sa mort, soit sur un acte religieux fondateur. Par exemple, les bouddhistes considèrent que la naissance du bouddhisme, c'est le jour de l'éveil de Bouddha, le jour où il a compris l'architecture du monde. Pour les protestants, la naissance du protestantisme, c'est la publication des 95 thèses de Luther. C'est en 1517 et c'est à partir de ce moment-là que le protestantisme naît. Pour les orthodoxes, c'est la date du schisme avec Rome au XIe siècle. Pour les musulmans, l'origine de l'islam, c'est 622. 622, ça n'est pas la date à laquelle Mahomet reçoit les révélations. Ça n'est pas la date à laquelle il meurt. Ça n'est pas la date du début des révélations qu'il reçoit de la part de Gabriel, dans la tradition musulmane, pour écrire le Coran. 622, c'est la date de son arrivée à Médine. Et que se passe-t-il quand Mahomet arrive à Médine ? En plus d'être un chef religieux, ce qu'il est déjà, il devient un chef politique. Il dote la ville de Médine d'une constitution, il se dote d'une armée, il commence à partir de Médine son programme de razzia qui va lui permettre de conquérir toutes les régions alentours. Et donc l'acte fondateur de l'islam, la naissance de l'islam, ça n'est pas la naissance de Mahomet. Pour les chrétiens, c'est la naissance du Christ. Pour les musulmans, l'islam devient l'islam lorsqu'il confond, le moment où il confond la politique et la religion, ou plutôt le moment où l'islam comme religion inspire et organise la cité politique. C'est donc un premier élément de réponse qui est important. Et puis, à partir de cette considération, il faut bien voir que si nous prenons les cinq piliers, à nous, pour le coup, de la société française occidentale dans ses institutions, liberté, égalité, fraternité, dignité, laïcité, aucune de ces cinq notions n'est compatible avec la vision islamique. Il n'y a pas de liberté religieuse en islam. Vous n'avez pas le droit de quitter l'islam si vous êtes musulman pour vous convertir à une autre religion. Sinon, vous êtes emprisonné dans le meilleur des cas. Vous pouvez être condamné à la peine de mort dans certains pays encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'égalité ni entre les croyants et les non-croyants du point de vue islamique. Il n'y a pas non plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de fraternité en islam, sinon entre les musulmans eux-mêmes. Moi, je suis chrétien. Je considère donc tous les hommes comme mes frères parce que mon Dieu me demande de considérer les choses ainsi. Un musulman ne peut pas me considérer comme son frère parce que je ne suis pas musulman. Et donc, il a le droit de me traiter différemment de ceux qui le sont. Du point de vue de la dignité, j'ai du mal à considérer que la loi islamique qui prévoit l'amputation de la main et du pied opposé pour les voleurs récidivistes, par exemple, ou un certain nombre de brimades qui sont réservées à ceux qui ne sont pas croyants, tout ça n'est pas notre conception de la dignité et du respect de l'intégrité physique des personnes, simplement. Et puis, en ce qui concerne la laïcité, notre conception est fondée sur une séparation stricte entre l'ordre religieux et l'ordre politique. Cette distinction est absolument inconnue en islam parce que, je le répète, l'islam n'est rien sinon la confusion du politique et du religieux, au sens où le politique est là pour s'assurer que la soumission extérieure des personnes au précepte d'Allah est respectée. Donc sur ces cinq points, il y a une incompatibilité stricte entre notre conception occidentale chrétienne, pour dire les choses rapidement, de voir les choses d'un côté et la conception islamique de l'autre côté.
RCF, Côte d'Armor.
Donc dans ce document stratégique, il est tout le temps fait référence à la grandeur de l'islam. Et l'islam se voit comme une civilisation brillante, universelle, au point que l'Occident lui est même redevable. Et qu'il y a une sorte de nostalgie de cette grandeur passée, surtout face à la réalité actuelle de beaucoup de pays islamiques sur le plan culturel et économique et aux divisions internes entre musulmans dont vous parlez dans votre livre. Mais vous dites aussi que nous avons humilié l'islam. Et vous parlez des racines historiques et politiques du conflit entre l'islam et l'Occident. Par exemple, vous liez certaines concessions faites à l'islam à une culpabilité occidentale par rapport à l'existence d'Israël. C'est une analyse très lucide. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
C'est un très vieux problème. Le conflit entre les Arabes, les Juifs et les chrétiens... Il commence avec la mort du Christ sur la croix, enfin, ou avec sa résurrection en tout cas, ou la fondation de l'Église, enfin quelque part par là. Donc c'est une très très vieille histoire. Il y a très clairement un fort ressentiment du monde musulman à l'égard de l'Occident, en particulier du fait que l'Occident a aidé Israël à se constituer comme État. L'Occident a fait en sorte que Israël puisse emporter les deux guerres très courtes, l'une de 6 jours, celle de la guerre des 6 jours, 67, l'autre qui a duré 18 jours, c'est la fameuse guerre du Kippour, c'est en 73, 1900, tout ça bien sûr. Et les États musulmans, la Ligue arabe en particulier, a beaucoup reproché à l'Occident d'avoir demandé à la Syrie et à l'Égypte, qui étaient les protagonistes du deuxième conflit de 1973 contre Israël, de baisser les armes et en fait de consacrer d'une certaine façon le fait que les États arabes ne viendraient pas à bout de l'État d'Israël. Moi, je suis parfaitement favorable, évidemment, au fait qu'Israël bénéficie d'un État. Le peuple juif ne peut pas être le seul peuple du monde auquel on ne reconnaîtrait pas le droit d'avoir un État et un territoire. Ce serait quand même inexplicable et parfaitement injustifié. Cela étant dit, les États arabes nous ont fait payer la note, puisque avec la fin de la guerre du Kippour de 73, quelques semaines plus tard, pour punir l'Occident, purement et simplement, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, composée très majoritairement de pays musulmans. Il n'y a guère que le Venezuela, je crois, qui en soit membre et qui ne soit pas un État musulman. Je ne sais même pas s'il y était à l'époque, d'ailleurs, il faudrait vérifier. Mais donc les États musulmans décident de faire la peau d'une certaine manière à l'Europe et disent et augmente de manière artificielle les cours de pétrole. Ça multipliera par 5 ou 6 la facture d'importation de pétrole dans chacun des pays occidentaux. Et pour sortir de cette crise, les pays occidentaux vont négocier avec la Ligue arabe, dans le cadre d'un document qui s'appelle le protocole de Strasbourg. On est en 1975. Ce protocole dit que, à la demande des pays européens, la Ligue arabe accepte l'idée qu'on puisse organiser une migration massive de main-d'œuvre depuis l'Afrique du Nord vers les pays d'Europe occidentale pour relancer la machine économique. Alors pourquoi est-ce que les migrations massives relancent la machine économique ? Ma réponse, parce que ça fournit davantage de main-d'œuvre et moins cher. Mais ça ne s'est pas fait sans contrepartie, puisque les États occidentaux s'engageaient dans le même document, à la demande de la Ligue arabe, d'abord à autoriser le regroupement familial sans limite pour tous les gens qui viendraient travailler en Europe, et deuxièmement, s'engager à respecter absolument le mode de vie, la culture, la langue, la religion de toutes les personnes qui viendraient. C'est-à-dire que dans le principe même de ce protocole de Strasbourg, on renonce en réalité à toutes les politiques d'assimilation et même à des politiques d'intégration. Et en réalité, la racine du problème est là. L'implantation des communautés musulmanes en France se fait parce que, grosso modo, les responsables de l'économie française à l'époque ont vendu notre civilisation. On a préféré le confort à l'exigence, alors qu'il aurait fallu sans doute rappeler qu'on ne peut pas vivre heureux sans être pleinement conscient de la civilisation dont on est l'héritier. On ne peut pas, quand on est un corps social, prétendre avoir un avenir si on n'a pas le devoir de transmettre cet héritage et cette civilisation. Et là, nous avons abandonné ce devoir, tout simplement. Nous en payons la note encore un demi-siècle après.
En bref, quand les États islamiques évoquent les droits de l'homme, c'est toujours avec la condition que ces droits soient compatibles avec la charia. Et nous savons que la charia, c'est la fin de la liberté de choisir sa religion et d'en changer, la fin de la liberté d'expression et l'inégalité entre l'homme et la femme. D'un autre côté, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient d'adopter une résolution, donc la PCE. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'inquiète du fait que la charia est déjà en pratique dans plusieurs États en Europe. Nous sommes donc dans une situation paradoxale. Que faudrait-il faire, d'après vous ? Quelle est la bonne réaction ? Donc sur le plan juridique et puis aussi sur d'autres plans.
Il faut d'abord savoir si le diagnostic est partagé. Je veux dire par là que nous sommes en face d'une stratégie de conquête. Elle se déploie en France comme dans d'autres pays d'Europe. Elle s'accompagne sur le plan international d'un certain nombre d'intentions ou de projets. Ainsi, par exemple, il y a une pression régulière de la part des États musulmans qui veulent absolument faire reconnaître comme une forme de blasphème le fait de critiquer l'islam partout où il se trouve et partout où on est. C'est-à-dire que les États musulmans mènent une offensive depuis une vingtaine d'années pour faire interdire toute forme possible de critique de l'islam. Cette tentative échoue à peu près systématiquement devant les instances internationales. Mais il y a eu au Canada, il y a une quinzaine d'années, un débat sur ce sujet, une motion qui a été adoptée par le Parlement canadien, il y a quelques années, qui visait justement à faire en sorte qu'au nom de la liberté religieuse, on n'ait plus le droit de critiquer l'islam. Donc il y a des tentatives sans cesse de faire en sorte que l'islam sorte du champ habituel de la critique, ce qui est là aussi absolument contraire, alors en particulier à la tradition française. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est s'entendre sur le diagnostic. Sommes-nous, oui ou non, dans une situation de subir une tentative de conquête? J'ai démontré que oui, et j'attends encore une fois les objections à cette démonstration. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte, je n'ai fait que le lire et le commenter. Deuxièmement, l'islamisation en France progresse parce que nous avons tendance à laisser les maires lutter seuls contre ce phénomène dans le périmètre de leur commune. Or, la stratégie de conquête est une stratégie culturelle, politique, conduite et soutenue par des États. Pour la contrer d'une manière proportionnée, il faut donc que nous adoptions une stratégie culturelle traduite sur le plan politique et conduite par l'État. Si nous laissons les maires se débrouiller tout seuls, ils n'y arriveront pas. D'ailleurs, ils sont débordés à peu près partout lorsque le phénomène se présente. Troisièmement, il faut s'entendre. Tout le monde a entendu parler des horaires réservés dans les piscines pour les femmes musulmanes. Je vais passer un petit moment pour examiner cet exemple parce qu'il est très révélateur à la fois du problème que ça pose et de la solution qu'il faut adopter. Il n'est pas interdit en France de réserver des horaires de piscine à un certain nombre de populations. Nous le faisons pour les enfants qui apprennent à nager, les gens qui ont payé une licence dans le club de natation, les femmes qui viennent après leur grossesse pour se remettre en forme, les personnes à mobilité réduite pour ne pas qu'elles soient gênées par des gens qui iraient plus vite qu'eux, ou ceux qui font des activités sportives dans un club, etc., qui ont payé l'accès. Ce n'est pas du tout interdit de réserver des horaires à quelqu'un. Mais on le fait. Pourquoi ? Parce que soit il y a un enjeu de fragilité objective, soit il y a une forme d'utilité sociale, soit il y a un contrat. Un nageur qui a payé une licence dans un club, il a passé un contrat avec son club et peut utiliser une ligne d'eau tout seul. réserver des horaires pour les femmes dans les piscines, ça veut dire que, de manière systématique, on considère que lorsque des femmes en maillot de bain croisent des hommes en maillot de bain dans une piscine, eh bien, on ouvre la voie à tout un tas de tentations de manière absolument systématique qui sont tout à fait contraires, pas à la loi, pas non plus aux relations normales entre des hommes et des femmes, aux prescriptions d'Allah. On soupçonne que les hommes et les femmes sont d'un côté des tentatrices insatiables et d'un autre côté des cochons qui ne savent pas se contrôler. Et donc une espèce de soupçon qui est posé sur la nature humaine de défiance présupposée des relations sociales qui conduit à vouloir appliquer coûte que coûte, quoi qu'il arrive, des prescriptions de manière complètement extérieure et sans aucune espèce de réserve ni de retenue. Cette défiance, cette volonté de contrôler les comportements par la séparation, ça n'est pas l'esprit de la société occidentale. Et je vous le dis, si aujourd'hui ça se passe dans les piscines, pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas demain dans les transports en commun ? Et une fois qu'on applique nos transports en commun, où est-ce que ça va s'arrêter ? Dans les bureaux après-demain ? Et puis quoi ? Et on entre petit à petit dans une logique d'apartheid qui est le propre des sociétés islamiques. Elles fonctionnent comme ça, par communautés juxtaposées qui ne se parlent pas les unes les autres, en tout cas dans laquelle les musulmans ne parlent pas aux mécréants, sinon par stricte nécessité et encore pas toujours et pas n'importe comment. Donc, entendons-nous, si ça, c'est un phénomène qu'il faut combattre, alors il faut le combattre. Et il faut se dire, même si ce n'est pas illégal de réserver des horaires de piscine aux femmes musulmanes, ça n'est pas l'esprit de nos institutions, ça n'est pas notre conception de la société, de la manière que dans le mode de vie occidental, dans la culture occidentale, on mange de tout, y compris du porc. Et donc dans l'éducation au goût des enfants, je suis désolé, dans les écoles, il doit y avoir de la viande de porc. Pourquoi non ? Pourquoi est-ce qu'on ferait, une meilleure place à une tradition religieuse plutôt qu'à une autre ? Et ainsi de suite. Et vous pouvez multiplier comme ça les exemples. Pour comment se fait-il que les écoles coraniques, qui sont des établissements cultuels, ne soient pas assujetties aux lois de 1905, qui pourtant demandent que les temples, les paroisses, les synagogues s'organisent et aient une association de gestion déclarée, contrôlée, etc. Enfin voilà. Il n'y a aucune raison, et au contraire, de laisser se déployer des pratiques qui sont celles de la loi islamique. Elles sont contraires à nos traditions. Elles ne respectent ni notre culture, ni notre mode de vie, ni nos institutions. Et donc, il faut y mettre une fin. Parce que si nous n'y mettons pas une fin, alors à ce moment-là, elles nous déborderont, ce qui est d'ailleurs le cas déjà, dans un certain nombre de territoires en France. Encore une fois, je renvoie au livre de M. David, M. L'Homme, Inch'Allah, publié en septembre dernier, qui décrit très bien ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, mais à côté de chez moi, dans les Yvelines, à Trappes ou ailleurs, ou à La Verrière, ou au Mureau, ou dans quelques autres communes. C'est exactement ce qui se passe aussi. Molenbeek en Belgique et d'autres quartiers. Donc voilà, ça dépend de ce que nous voulons. Soit nous résistons et nous controns cette expansion de l'islam en disant: vous voulez pratiquer votre foi de manière pacifique ? Nous avons très bien. Si la tradition française, nous sommes dans un pays de liberté, les chrétiens reconnaissent la liberté religieuse, l'Église catholique de manière très officielle depuis Vatican II et sans aucune espèce de réserve, la société française organise cette liberté, parfait. Mais ça ne peut pas vouloir dire que on nous impose des modes de vie et des pratiques qui ne sont pas compatibles avec notre conception de la société et notre conception du droit. Donc il faut simplement réaffirmer ce que nous sommes, reprendre conscience du fait que nous autres occidentaux, nous avons des modes de vie qui ne sont pas compatibles avec tous les systèmes. Et effectivement, dans cette confrontation de civilisation dans laquelle l'islam nous emmène, nous devons affirmer la nôtre. Alors de manière pacifique, comme un attrait et non pas comme une contrainte, mais nous devons nous réarmer d'une certaine manière, culturellement et sur le plan civilisationnel, pour résister, parce qu'il faut résister, à cette expansion de l'islam.
C'est Jean-Frédéric Poisson qui est notre invité dans l'émission Rencontre avec sur RCF. Et nous parlons de l'islam à la conquête de l'Occident. Une stratégie dévoilée. Votre dernier livre, Jean-Frédéric Poisson. Mais si vous voulez bien, parlons un peu de votre parcours personnel. Parce que la plupart des Français vous ont découvert au moment de l'élection présidentielle, il y a 2 ans. Donc vous avez été maire de Rambouillet, puis député à l'Assemblée nationale. Mais votre profil est atypique pour un homme politique. Dans votre biographie, on lit que vous avez grandi dans une cité. Adolescent, vos parents divorcent et vous avez plus ou moins séché les cours. Aucun intérêt pour l'école. Vous étiez ce qu'on appellerait un élève en difficulté. Vous avez fait des petits boulots de vendeur et de livreur. Bref, vous ne sortez pas de l'ENA et vous n'êtes pas bien né, comme on dit. Et puis soudain, en terminale, vous découvrez la philosophie et surtout la religion chrétienne. Et là, c'est une conversion radicale. Nous sommes sur une radio chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
J'étais, vous avez dit, un élève en difficulté, c'est très modeste, c'est bien pire que ça. J'étais un décrocheur scolaire, je dirais professionnel, c'est-à-dire très actif et tout à fait énergique. Je m'ennuyais à l'école comme beaucoup de mes contemporains et beaucoup d'enfants aujourd'hui sans doute encore. C'était pas la faute des professeurs particulièrement, c'était la faute de personne, c'était comme ça. J'étais très intéressé déjà par la littérature, la poésie. Mon adolescence était, compte tenu de nos difficultés familiales, exacerbée d'une certaine manière en termes de contestation, de rejet de tout ce qui pouvait être autour de moi, au fond. Et puis, un beau jour d'un cours de philosophie, oui, en terminale, c'était au mois de janvier 82, nous étions en train d'étudier les attitudes possibles de la conscience à l'égard du passé, c'est-à-dire le regret, le remords et le repentir. Et pendant ce cours, il était 9h15 ou 9h20 du matin, j'ai une image extrêmement précise de ce moment, comme d'ailleurs beaucoup de convertis qui pourront vous dire précisément comment ça s'est passé. J'ai eu la sensation que, en dépit de toutes mes avanies, et Dieu sait que j'en avais quand même commis quelques-unes, j'étais aimé de Dieu. Et j'ai ressenti, ressenti n'est pas le bon mot, mais j'ai on va dire vécu, parce que c'est pas de l'ordre de la sensation. C'est vraiment spirituel, je crois. Une immense paix, une très grande douceur. Et je me suis dit que ce jour-là, Dieu était entré dans ma vie. En fait, il était entré beaucoup plus tôt. Parce qu'on s'en rend compte que plus qu'après, en définitive. Mais, et à partir de ce moment-là, plus rien dans ma vie n'a été pareil. J'ai fait mes choix d'études, de vie professionnelle aussi, en fonction de cet événement particulier. Et c'est à ce moment-là que j'ai préféré la formation philosophique à peut-être un parcours qui aurait été un peu plus habituel. J'étais un très bon élève de terminale, de ce fait. J'ai décroché pendant à peu près toute ma carrière, sauf cette année-là, alors que le directeur de mon établissement m'aurait volontiers envoyé en école de lettres supérieures et au-delà. J'ai préféré faire des études de philosophie parce que je pensais que c'était ça qui me nourrirait. J'ai passé ensuite ma vie à essayer de m'occuper de mes contemporains du mieux que je peux, en enseignant, en travaillant dans le secteur des ressources humaines, et puis dans la vie politique aussi. C'est ce que je tâche de faire encore aujourd'hui.
Vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate. Alors, comment inscrivez-vous les chrétiens dans la cité? Car la plupart des pays dans le monde ont un rapport plutôt apaisé avec l'identité religieuse. Mais ici, en France, il y a toujours un débat sur la laïcité qu'il faut prendre en compte. Pourtant, les chrétiens sont les garants de la liberté religieuse. Par leur présence, ils sont même respectés pour leur faculté de pardonner et d'être des ponts entre les communautés. Il y a eu un événement au Parlement européen l'année dernière là-dessus. Croyez-vous que les chrétiens aient un rôle semblable à jouer en France par rapport à l'islam, un rôle pacificateur?
Assez certain. Je tire une partie de cette conviction que je vais vous partager des très nombreux échanges que j'ai eus avec des responsables politiques ou religieux ou des universitaires musulmans dans tous les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, et puis dans d'autres pays d'Europe. Il est certain que les chrétiens sont le ciment des sociétés musulmanes. Là où les chrétiens demeurent, l'islamisme extrémiste ne prospère pas, ne s'installe pas. Là où les chrétiens demeurent, la vie entre les communautés sunnites et chiites est possible. Elle est quand même difficile, mais elle est possible. Et au fond, nous avons, nous chrétiens, la responsabilité d'assurer effectivement une forme d'adoucissement des relations sociales. Par notre présence, bien sûr, par notre exemple, si Dieu veut, et par le fait que, par les paroles que nous disons, nous attirions l'attention sur les choses qui iraient de travers à chaque fois qu'on oublie la dignité de la personne, parce qu'en fait, nous ne sommes là que pour ça. Nous sommes là pour rappeler que chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mérite toute notre attention, tout notre respect, et plus il est fragile, plus il la mérite. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous ne sommes pas là, si nous ne faisons pas ça, alors ça ne sert pas à grand-chose, au fond. Alors c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui, parce que, d'abord, il est difficile de trouver sa propre voie à titre personnel. Comment est-ce que, là où je suis, je peux, moi, être fidèle à cette exigence, à ce devoir qui m'est fait? C'est plus qu'une invitation, c'est une injonction qui est faite par le bon Dieu lui-même vers chacun et chacune d'entre nous. Les circonstances ne rendent pas ça facile. Les contraintes de la vie font que de temps en temps, on est obligé de faire des choix qui sont cruels parce que les circonstances ne permettent pas de faire autrement. Néanmoins, nous sommes quand même là pour ça. Et je pense qu'il y a à la fois une attente et une forme de distance à l'égard des chrétiens. Nous sommes signe de contradiction. C'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est dans l'Évangile. et le pape Jean-Paul II, je crois, y a consacré un petit livre il y a maintenant une trentaine d'années. Nous sommes signe de contradiction, c'est-à-dire à la fois pleinement ancré, pleinement vivant, pleinement actif dans le monde où nous sommes, tout en étant parfaitement conscient que ce n'est pas pour ce monde-là que nous sommes faits. Et ce message est très difficile à porter dans un monde où, précisément, à part, il n'y a pas beaucoup d'autres horizons, en réalité, que la vie terrestre, en tout cas, la plupart du temps. Alors, ce qui est difficile, c'est le discernement. Et en particulier, pour l'action politique, je suis frappé de voir que j'en ai rencontré des centaines de personnes depuis maintenant un quart de siècle que je suis actif dans le monde politique. Il y a beaucoup de gens qui auraient le talent qu'il faut pour s'investir dans la cité sur le plan électoral, comme je l'ai fait moi, et qui ne le font pas parce qu'il n'y a pas d'outils de discernement pour savoir si on les attend là ou si on ne les attend pas là. C'est vrai que la vie politique est une vie de sacrifice. C'est vrai qu'elle demande énormément. C'est vrai que c'est un monde qui est brutal, qui est violent. Il n'est pas spécialement plus brutal et plus violent que les autres. Le monde économique ne l'est pas moins. Quand on connaît un peu le monde associatif, on sait aussi qu'il s'y déroule des choses qui, de temps en temps, sont un peu contraire à la gratuité qui devrait être son principe de fonctionnement, mais la condition humaine est ainsi. La politique est plus spectaculaire, on la voit davantage, elle est davantage observée, elle est sous une loupe grossissante systématiquement, donc les travers des hommes y paraissent de manière plus immédiate, mais il y a beaucoup de grandeur et je veux vous dire à ce micro que c'est une école de patience et d'humilité, donc une école spirituelle comme je n'en connais pas beaucoup. En tout cas, si je n'avais pas eu la conviction avec toutes ces années que je pouvais continuer d'agir en politique sans renoncer à rien de ce à quoi je crois et de ce à quoi je suis attaché, je me serais arrêté. Or, je continue.
Merci Jean-Frédéric Poisson. Et je rappelle que votre livre, « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée », est paru aux éditions du Rocher.